Hey, je veux vous partager quelque chose. Le Seigneur m'a donné... Vous savez, quand on prie le Seigneur, qu'on lui demande des choses, qu'on s'attend à lui, ben il répond. Parce qu'il est vivant, il est personnel, et il est bon. C'est le thème du mois de décembre. Dieu, notre source de bonté. Et quelle bonté Dieu a manifestée en venant à nous pour nous sauver, pour amener la délivrance. Jésus, venu humblement, est venu en mission. On va voir tantôt un des versets qui nous parle de cette mission merveilleuse. Mais j'ai un sens de direction dans ce texte qui n'est pas du tout un texte de Noël, mais j'aimerais amener la question de la bonté de Dieu et avec justement à la lumière de tout le fait comment il est venu, comment ça l'exalte sa bonté. Donc on est dans 1 Pierre au chapitre 2 et on va lire les versets 1 à 3. Faites-vous en pas, c'est un message de Noël, là. Mais je vais amener des vérités sur l'incarnation, sur le fait que Jésus est venu. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Seigneur, mon désir, c'est simplement que tout le monde ici goûte pleinement, dans toute la plénitude, ta bonté. Ah, Seigneur, ceux qui n'ont pas encore goûté pour le salut, pour te connaître, toi comme leur sauveur, comme leur vie, je te prie qu'ils puissent, Seigneur, mettre leur foi en Jésus qui est venu, qui a tout accompli. Et Seigneur, je te prie que pour nous, ton peuple, on se réjouisse dans ta grâce. Seigneur, que tes bontés qui se renouvellent à chaque matin rassasient notre âme, fassent la joie de nos cœurs. Seigneur, dirige ce temps dans ta parole, on te le demande au nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message, c'est simplement « As-tu goûté à la bonté de Dieu? » Et vous voyez, dans les deux premiers versets, le premier mot du verset 1, c'est « rejetant ». Et le premier mot du verset 2, c'est « désirer ». Il y a un rejet au verset 1, il y a un désir au verset 2. Et je dirais que la différence que Jésus a fait en venue, c'est en venant parmi nous, la venue de Jésus, ça fait vraiment la différence entre les deux et je vous explique. Vous savez, Jésus est venu, c'est le Rédempteur. Il y a un des cantiques de Noël qui nous parle de ça. « Voici le Rédempteur ». Et dans l'Apocalypse, ça dit que Jésus a fait toutes choses nouvelles. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez un nouveau cœur, une nouvelle nature, vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Et j'ai hâte en 2024, le thème de 2024, ça va être transformé en image de Christ. Donc, c'est une transformation totale et complète. Il y a des émissions à télé... Complete makeover, c'est ça comment? Je sais pas. Tu sais, les émissions, là, qu'ils prennent une maison tout scrap, là, puis ils la changent. Ben, Dieu a pris des vies comme les nôtres, tout scrap, puis tout ça, puis il transforme. C'est tellement mieux. C'est une transformation éternelle, une transformation qui fait vraiment du vrai bien, parce que c'est la grande bonté de Dieu qui fait ça. Mais je veux juste faire remarquer qu'au verset 1, quand ça dit rejeter, puis ça parle des choses ici, qui sont mauvaises au niveau relationnel. Okay? C'est toutes des choses, la méchanceté, la ruse, l'idée c'est l'hypocrisie, la manipulation, la dissimulation, l'envie, la médisance. C'est toutes des choses qu'on peut avoir qui sont néfastes dans nos relations interpersonnelles. Et savez-vous que quelqu'un de moral, quelqu'un avec une religion, peut faire ces choses, ou en tout cas s'efforcer de faire ces choses. Mais quand on voit le verset 2, si on veut expérimenter dans son authenticité, dans sa puissance, des désirs nouveaux de quelqu'un de nouveau-né, ça, c'est seulement la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu qui peut faire ça. Donc, entre le verset 1 et le verset 2, il y a la différence religion versus relation. Et c'est quoi la différence? C'est que Jésus est venu pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu, qu'on puisse le connaître, lui, authentiquement et réellement. On appelle ça la transformation. Et ça nous en parle, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Et la Bible aussi nous dit que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelle. Donc, comment on peut faire la différence? Que là, je suis dans une religion, juste que j'ai appris à rejeter des affaires, ou j'ai une relation avec Dieu, est-ce que j'ai des désirs pour ce qui est de lui, ça fait la joie de mon cœur. La différence, elle se situe avec le verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. As-tu goûté à la bonté de Dieu? Ici, quand on lit le verset 3, c'est une citation du psaume 34, verset 9. « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche en lui un refuge. » Si on met les deux versets ensemble, 1 Pierre chapitre 2, verset 3, puis psaume 34, 9, on voit beaucoup de sens ici qui sont impliqués pour expérimenter la bonté de Dieu, le goûter, le sentir, le voir. Et donc, on peut dire aussi, on peut le ressentir. Donc, on voit que c'est une expérience relationnelle parce que Dieu est un Dieu personnel. Puis Dieu n'est pas juste venu pour faire des beaux discours, pour écrire des choses dans un livre. Dieu est venu pour se faire connaître à nous, pour qu'on le connaisse en goûtant, en voyant, en sentant sa bonté. Et ça, c'est ce qui est le plus merveilleux. Et lorsque quelqu'un rencontre comme ça Jésus-Christ, lorsque Jésus vient à quelqu'un, et on a un cantique là-dessus, quand Jésus vient, il brise toute chaîne. Quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, cette personne-là, après ça, est plus pareil. Quelqu'un avait dit, si quelqu'un un jour vous arrive et vous dit, excusez, je t'entends à mon rendez-vous, je devais arriver plus tôt, c'est parce que j'ai frappé un camion semi-remorque en arrivant, fait que j'étais un petit peu en retard. Ben, vous attendriez que si la personne a frappé un camion semi-remorque, il va arriver en mille morceaux, vraiment écrapouti. Parce que quand on rencontre un camion semi-remorque, là, d'habitude, ça nous laisse plus pareil, n'est-ce pas, Maxime? Ben, quand on rencontre Jésus, là, c'est plus qu'un camion semi-remorque. Ça nous laisse pas pareil. Rencontrer Jésus, quand Jésus vient, il brise les chaînes, il change nos vies. Et donc, j'aimerais qu'on voit simplement aujourd'hui deux transformations qui sont produites par le fait de goûter la bonté de Dieu. La première, on l'a au verset 4. Donc, on avance un peu dans notre texte. Ça nous dit au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante. » Ici, ça nous parle de Jésus qui est la pierre vivante. « Rejeté des hommes. » Jésus a été rejeté par les hommes. « Mais choisie et précieuse devant Dieu. » Donc, « Approchez-vous. » Ça, c'est l'essence du salut. « Approchez-vous de Dieu. » Et si on compare le verset qu'on vient de lire à Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13, ça dit « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » L'un des plus tristes versets de la parole de Dieu. Étrangers de Dieu, loin de Dieu. Mais regardez, il y a un « mais maintenant ». En Jésus-Christ, vous qui jadis étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et donc, s'approcher de Dieu, c'est ça l'essence du salut. Et on ne peut que s'approcher de Dieu parce que lui s'est approché de nous. Il est venu et il désire simplement qu'on réponde. Lui qui s'est approché de nous, il veut qu'on réponde en s'approchant de lui. Ou pour le dire dans d'autres mots, nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, il nous a aimés, il nous a montré son amour, il veut qu'on réponde à cet amour. Dieu nous a conçus, vous savez, on est ici, on n'est pas le produit de la chance et de l'évolution et d'une poussière céleste qui s'est transformée en microbe et whatever, là, ça se peut pas. Non, on est créé par Dieu. Et on est créé et conçu par Dieu pour répondre à notre Créateur. Pourquoi le monde ne marche pas? On parlait de ça. Nous avons une tellement bonne occasion de partager Christ avec une chère dame, jeudi matin, ma femme et moi. Et on disait, pourquoi que ça ne marche pas le monde? Parce que le monde ne peut pas marcher. La conception, la création ne peut pas marcher sans son Créateur. C'est impossible, c'est un non-sens. Donc, si on rejette Dieu, ben ça va pas marcher. Ben Dieu nous a fait comme ça. Il nous a fait pour répondre à lui, pour dépendre de lui. Il nous a fait pour lui. Donc, si on veut vivre sans lui, ben ça peut pas marcher. C'est une loi fondamentale de la nature spirituelle. C'est comme ça. Et ça, c'est fondamental à comprendre pour que on puisse voir un sens à ce qui nous arrive. Pourquoi il y a du mal dans le monde? Pourquoi on expérimente le malheur, la souffrance, des blessures? Savez-vous que la Bible nous dit que toute grâce excellente, tout don parfait descend du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation? Dieu, il ne fait que du bien. Là, c'est qui? C'est-tu moi qui fais ça, là? OK. Hey, on est-tu correct, Josiah? Bon. OK. C'est un peu stressant, là. Je me sens électrique. Donc, c'est ça. Comprendre ce qui nous arrive. Pourquoi ce qui m'arrive, ça m'arrive? Mais parce qu'il y a un Dieu qui est là, puis qui, la Bible nous dit, qui transforme le mal en bien. Et la Bible nous dit que Dieu sauve le malheureux dans sa misère, et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Oui. Hey, peux-tu lâcher ça, mon ami, parce que je pense qu'il y en a qui vont faire une crise cardiaque.
C'est peut-être de l'électricité statique.
Ouais, c'est ça.
Quelque chose de métal pour grounder.
Ouais.
C'est bon, c'est l'autre micro.
OK, est-ce qu'on lâche tout ça? OK, parce que là, c'est stressé. Tout le monde a jumpé. J'ai vu la réaction. OK.
Personne
bon. Là, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Dieu sauve le malheureux. OK, je recommence avec la question fondamentale de comprendre pourquoi. C'est quoi le sens de ce qui m'arrive? Pourquoi il m'arrive ce qui m'arrive? Parce que Dieu est celui qui change le mal en bien. Donc, il permet le mal. Il n'est pas l'auteur du mal, mais il permet pour que le mal arrive. Oui, Dieu. Souvent, on entend, « Ah, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ce malheur, toute cette misère, toute cette souffrance dans le monde. » Dieu n'est pas l'auteur de la souffrance. Le péché et la dureté du cœur humain est la cause de la souffrance dans le monde. Mais Dieu, il serait capable de dire, « OK, plus de souffrance, il n'y a plus rien qui arrive. » Mais Dieu laisse ça aller parce qu'il appelle les gens à lui à travers cette souffrance. Puis Dieu a la puissance de changer, de donner un sens à ce qui nous arrive de mauvais, pour le racheter, pour le restaurer. Dieu est capable de changer le mal en bien. Et donc, tout ce qui est bon vient de Dieu, puis ce qui n'est pas bon, Dieu est capable de le prendre pour faire du bien. Et comment que je fais pour expérimenter cette bonté que Dieu suscite dans ma vie? Bien, c'est simple, c'est la réponse de la foi. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si il m'arrive des choses, puis que je me tourne vers Dieu, que je crie à Dieu, que j'invoque sa miséricorde, Dieu dit qu'il va se laisser trouver. Dieu dit qu'il ne va pas mettre dehors celui qui vient à lui. Et donc, oui, il y a de la souffrance, lui, il y a toutes sortes de choses qui ne marchent pas dans le monde, mais c'est Dieu qui appelle les gens à lui à travers ces choses. Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. Un beau verset que j'aime beaucoup dans Job 36:15 d'élève d'Éliu, le petit jeune qui a parlé en dernier dans le livre de Job. Ceux qui savent connaître le livre de Job, vous savez de quoi je parle. Et donc, ça m'amène à ceci. Peut-être qu'en ce moment, tu as mal. Peut-être que tu as peur. Peut-être que tu ressens de la colère. Ben, la solution, c'est simplement d'aller à celui qui est venu pour changer le mal en bien. Va à Dieu. Vois que Jésus est venu pour que dans ta situation, tu le trouves et tu trouves la grâce qui sauve, la grâce qui restaure, la grâce qui fait toute la différence dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est la mission de Jésus. Écoutez ce que Jésus a dit de lui-même dans la synagogue à Capernaum, qui avait été prophétisé par le prophète Ésaïe des centaines d'années avant. Donc, Jésus a dit de lui-même, et ça, j'ai la citation ici dans Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. » Ça, c'est le Messie, c'est une prophétie sur le Messie. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Oui, il arrive du malheur, mais c'est Dieu qui le permet pour accomplir sa mission dans ta vie. Donc, réponds à l'appel de la grâce de Dieu. Dieu ne veut pas te donner de la misère juste pour te donner de la misère, il veut te donner la chance de te tourner vers lui du sein de ta misère. Dieu est bon Quand il permet la misère pour pas qu'on s'endurcisse, il n'y a rien de pire que s'endurcir loin de Dieu. Vaut mieux, pour un temps, vivre des choses difficiles, puis rencontrer Dieu, expérimenter sa grâce du sein de ces choses difficiles. Et donc, c'est l'appel du salut. Et le salut, mes amis, à être sauvé, c'est plus que juste un ticket pour le ciel. C'est même plus aussi que le pardon des péchés. Ça l'inclut ça. Quand on est sauvé, on a notre garantie d'aller dans la présence de Dieu lorsqu'on meurt. Tous nos péchés, passés, présents et à venir, sont pardonnés. Mais le salut, c'est plus que ça. C'est aussi le don de la vie. C'est Dieu qui nous donne sa vie. Il ne fait pas juste enlever la condamnation. Il nous donne sa vie pleine de grâce et de vérité. Il se donne lui-même. Si on est un enfant de Dieu, on est scellé du Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, vient habiter en nous. Et ça, mes amis, ça fait complètement toute la différence dans la vie de quelqu'un. Pourquoi? Parce que ça nous montre que quand on est sauvé, on a de la valeur, on est accepté, on est aimé. Tout ce que notre cœur, tout ce à quoi notre cœur aspire, on le trouve en Jésus-Christ, le merveilleux Sauveur. Donc, j'appelle ici chacun à recevoir le don merveilleux de la grâce de Dieu. Jésus lui-même a dit que c'est pour ça qu'il est venu. Jésus a dit dans Matthieu 18, « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Jésus a fait sa part, il est venu. C'est à vous de répondre. Si vous n'êtes pas sauvé, aujourd'hui, je vous encourage. Mettez votre foi dans celui qui est venu pour vous sauver. Venez à celui qui est venu à vous d'abord. Il n'a pas attendu que vous soyez, que vous méritiez, que vous soyez disposé. La Bible nous dit que lorsqu'on était encore pécheur, qu'on ne voulait rien savoir, Christ est mort pour nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. Et donc, c'est le premier point. Celui initial, approchez-vous de Dieu. C'est l'essence du salut. Connaissez-le par celui qui a envoyé Dieu le Père, envoyé Dieu le Fils, et il se fait connaître à vous ce matin par Dieu le Saint-Esprit, qui vous convainc que ce que je vous dis là, c'est la vérité. Qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui vous aime et que vous devez le recevoir, et que vous devez, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Oh, que vous puissiez goûter, expérimenter la bonté de Dieu, parce qu'il n'y a rien au monde, absolument rien, qui se compare à ça. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux, ineffable. C'est la première transformation, celle de s'approcher de Dieu pour être sauvé. La deuxième, c'est au verset 5 de notre texte. La deuxième transformation, c'est celle des enfants de Dieu, c'est le fruit du salut. Édifiez-vous. Regardez le verset 5. Et vous-même, comme des pierres. Là, ici, le premier verset, ça parlait de Jésus, qui est la pierre angulaire, la pierre vivante. Mais ici, ça parle, au verset 5, des enfants de Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le fruit du salut, c'est l'édification. Et lorsqu'on s'approche de Dieu, la première manifestation de quelqu'un qui s'approche de Dieu, il va s'approcher de son peuple. Quand on est un enfant de Dieu, on chérit, on désire être avec ceux qui sont aussi des enfants de Dieu. C'est une joie. Il est bon, il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, n'est-ce pas? C'est pas... N'est-ce pas? Ah non, ici, c'est plate, c'est un club social, ça ne tentait pas d'être ici, c'est parce qu'il fallait qu'on chante un matin. Non, on est content d'être des enfants de Dieu avec les autres enfants de Dieu. Et écoutez là-dessus, un beau verset qui nous parle de ce que Jésus a formé justement avec les enfants de Dieu. Ça dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 14, « Car il est notre paix, Jésus est notre paix. Lui qui des deux, donc les Juifs et nous autres les païens, qui des deux... n'a fait qu'un, qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair, donc il est venu en chair, hein, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre, Donc, non seulement réconcilier avec Dieu, mais réconcilier les uns avec les autres. En un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, ça c'est nous qui étions loin, et la paix à ceux qui étaient près, c'est les Juifs, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Jésus est le prince de paix. Ça aussi, c'est prophétisé, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince, chef de la paix. C'est la mission de Jésus, la mission de paix, la mission de réconciliation. Non seulement il est venu pour amener le salut, mais il est venu pour amener la réconciliation entre les hommes, l'inimitié qu'il peut avoir entre nous autres, entre hommes et femmes, entre juifs et non-juifs, entre gens d'une nationalité puis gens d'une autre nationalité. Il y a des peuples sur la terre, en ce moment, des fois, qui sont voisins puis ils s'entretuent. Jésus est venu amener la paix entre ces hommes-là avec l'œuvre de la croix. Et donc, la réconciliation avec Dieu amène la réconciliation les uns avec les autres. Et dans le verset 5, ce qu'on a vu, c'est il y a vraiment ici une image spéciale parce que ça dit d'abord qu'on est des pierres vivantes et qu'on forme une maison spirituelle puis qu'on offre des victimes spirituelles. Il y a toutes sortes d'images. Maison spirituelle, pierre vivante, puis dans le fond, on est... On offre des sacrifices spirituels, hein, comme ça dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Pour le dire autrement, là, l'œuvre de Dieu, là, je ne sais pas si... Ça sonne un peu bizarre pour quelqu'un qui ne serait pas familier avec les choses de Dieu. Là. On est des pierres, puis on forme une maison ensemble, puis des sacrifices de Dieu. C'est quelle espèce de secte bizarre que c'est là. Non, c'est pas de ce monde. Ces choses-là sont spirituelles. On est une maison de Dieu en esprit, la Bible nous dit. Et on est son œuvre. C'est lui qui nous édifie. Nous sommes son œuvre et on est le troupeau de son pâturage. Et ces choses-là, le monde, c'est normal qu'il ne les comprenne pas. Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ça veut dire parmi les enfants de Dieu. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça n'a rien à voir avec l'œuvre des hommes. On n'est pas une religion ici, on est l'Église du Dieu vivant, une maison spirituelle. Ce n'est pas d'origine humaine, ce n'est pas la bonne idée de quelqu'un un jour qui s'est levé et dit « Ah, mais tiens, on va faire une église. » Non, Jésus a dit « Je bâtirai mon Église. » Ce n'est pas « Vous bâtirez mon Église » ou « Je bâtirai votre Église. » Non, non, c'est lui qui est le commencement, c'est lui qui est la fin, puis c'est lui qui est le tout entre deux. « Je bâtirai mon Église. » À lui soit la gloire. Et donc, si on veut s'édifier, mes amis, c'est par l'Esprit. C'est... Si cette œuvre est toute spirituelle, l'édification doit être spirituelle. Je vous explique ça bien simplement. En tant qu'homme, en tant que personne, en tant qu'humain, on peut désirer hein, l'uniformité. On va être pareil avec des gens pareils. Puis on, quand on parlait tantôt du mur de l'inimitié, pour ne pas avoir de chicanes, on va tout être pareil puis on va pas se froisser l'un l'autre. Dieu ne marche pas de même. Dieu prend des gens très différents. Tantôt, on a vu les Juifs, les païens, très, très différents, très, très opposés. Dieu, lui, ce qu'il fait, il produit l'unité spirituelle avec des gens complètement différents puis à l'opposé l'un de l'autre. Puis ce qu'il demande à ceux qui sont dans cet édifice que lui a créé avec son unité, il dit « Conservez l'unité de l'esprit. » C'est pas vous qui l'a créé, conservez-la. Vous savez, l'homme, la religion, la chair, l'arbre de la connaissance du bien peut produire de l'uniformité. Mais ce n'est que l'esprit de Dieu, le Dieu vivant, l'Esprit de Dieu avec l'arbre de vie qui peut produire, maintenir l'unité spirituelle. Et ça, c'est toute qu'une transformation, parce qu'on s'édifie les uns les autres, pas parce qu'on est tous pareils, pas parce qu'on pense tous de la même façon, mais parce qu'on a le même Dieu, qu'on est animé du même esprit. On conserve l'unité de l'esprit par quoi? Le lien de la paix. Et ça, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, j'ai vécu les deux. J'ai vécu l'uniformité, puis j'ai vécu l'unité. Je ne reviendrai jamais en arrière. L'unité spirituelle, c'est tellement meilleur. J'ai goûté comment le Seigneur est bon en Église, avec le peuple de Dieu. J'ai goûté pour être sauvé. J'ai goûté aussi en tant qu'enfant de Dieu avec le peuple de Dieu. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Puis c'est bien moins stressant. Au lieu d'essayer de changer tout le monde puis de mettre tout le monde conforme à mon image, là. Puis l'autre à son image, puis l'autre à son image. Hey, ça fait pas mal d'images, ça fait pas mal... Ça fait tout qu'un barbeau, là. Non, c'est Dieu lui-même qui nous transforme en son image. C'est ça, l'unité. C'est Christ en nous. C'est ce que lui fait. C'est pas forçant, c'est pas stressant. Mon frère, ma soeur qui est pas pareil, Dieu travaille dans sa vie. Dieu est capable de le transformer en son image. C'est son œuvre. Et donc, j'ai pas le fardeau sur mes épaules puis essayer de m'obstiner, puis d'insister, puis de stresser, puis d'avoir le gros nerf du cours sorti à essayer de changer mon frère, ma soeur, parce que Dieu le fait tellement mieux que moi. Et c'est extraordinaire. Un autre passage que je veux vous lire par rapport à ce ministère béni de l'édification, car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'ils sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et est ressuscité pour eux. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Je peux être mort à tout ce que j'ai essayé de faire, puis de toutes mes ambitions, puis de laisser Dieu vivre en moi, ses ambitions, ses plans pour moi. Ça aussi, c'est pas mal moins stressant, là. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne. Je ne sais pas si tu vas déjà arrêter ce verset-là. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Quand on est un enfant de Dieu, là, toutes choses sont pas. Tout est différent. On ne connaît plus même le monde de la même façon. Nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Les relations qu'on a maintenant ne sont plus basées comme avant. Sur notre chair, sur ce que nous on fait, mais sur Dieu qui habite en nous, sur sa grâce. On ne connaît plus les gens de la même manière. On les connaît maintenant à la lumière de l'œuvre de Christ en nous. C'est pour ça que le peuple de Dieu, il y a quelque chose d'unique. C'est pas un club social, c'est un organisme vivant. Ça dépasse les lignes de dénomination, d'histoire familiale, de caractère personnel, name it, là. Horoscope! Ça n'a pas rapport, cette affaire-là. On est unis en Jésus-Christ. C'est lui, notre unité. Et donc, c'est ce qui est merveilleux avec le peuple de Dieu. C'est Dieu qui nous a formés et c'est lui qui nous garde ensemble. Et là, je termine avec les versets 6 à 10 que j'aimerais lire pour lancer l'appel final de mon message. Ça nous dit au verset 6... Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Il s'y a pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez point un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui avez obtenu miséricorde et qui maintenant, qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est un appel à l'Évangile ici. Ça nous parle de Christ qui est soit la pierre angulaire dans notre vie, celui qui change tout, celui qui est le fondement de ma vie, ou la pierre d'achoppement. Il y a deux destinées ici. Une destinée de perdition, puis une destinée de rédemption. le choix est devant vous. Moïse le dit ainsi. Voici, je mets devant vous la mort et la vie. Choisis la vie. Si vous êtes ici, vous êtes sauvé, je ne vous demande pas d'avoir la bonne religion. Il y a quelqu'un qui m'a demandé ça l'autre jour, je vais être sûr d'avoir la bonne religion. Puis ça peut être une question sincère, mais ce n'est pas ça la question. Parce que Jésus n'est pas venu fonder une religion. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Ça, ce n'est pas une question de religion. La religion, c'est l'homme. Jésus est venu sauver les pécheurs. Jésus est venu pour réconcilier l'homme avec lui et les hommes, les gens avec les autres. Donc, si vous êtes ici et vous ne le connaissez pas, la question, c'est pas « j'ai-tu la bonne religion? » La question, est-ce que c'est « est-ce que ma foi est dans la bonne personne? » Si vous avez votre foi en vous-même, ou dans un leader religieux, ou dans un système doctrinal, ou dans des philosophies, peu importe que ce soit, si votre foi n'est pas dans la personne et dans l'œuvre de Jésus-Christ, Jésus est pour vous un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Vous êtes perdu, puis vous vous heurtez contre Jésus. Et ça peut changer aujourd'hui. Celui que vous avez rejeté, vous pouvez l'embrasser parce qu'il est venu. Lui a ouvert les bras. Il vous a aimé le premier. Répondez à son amour. Christ est venu pour que vous soyez réconciliés avec lui. Donc, l'appel est lancé. Jésus sauve ceux qui reconnaissent qu'ils sont perdus. Jésus sauve ceux qui voient que leur péché est grave et qui les sépare de Dieu et qui reconnaissent que seulement lui est le paiement pour le péché. Ce n'est pas nos bonnes œuvres. Ce n'est pas ce que moi j'aurais pu faire ou ce que mes parents ont fait. C'est ce que Jésus a fait une fois pour toutes, il y a 2000 ans, lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Il est allé au tombeau pendant 3 jours, il a ressuscité des morts, il a vaincu la mort, et donc, il n'y a plus rien à rajouter. Essayez pas de rajouter à ce qui est parfait. Recevez, dites « Merci Seigneur ». Donc, c'est vraiment aujourd'hui notre désir, si vous êtes ici, nous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, notre désir, c'est de vous voir venir à Jésus. Et peut-être même d'autres qui vont l'écouter par après, qui puissent connaître la joie de goûter à la bonté de Dieu. Amen. Et j'ai un petit mot pour les enfants de Dieu, juste pour terminer. Vous savez, Jésus est l'incarnation de la bonté de Dieu. Jésus, ça nous dit dans Jean, dans l'ouverture de Jean, il est venu parmi nous plein de grâce et de vérité. Et la Bible nous dit que nous sommes son corps. Qu'on puisse le laisser vivre en nous, que dans ce temps des fêtes, on soit la bonne odeur, le parfum de Christ pour les gens autour de nous qui ne le connaissent pas. Essayez pas de convaincre les gens. Laissez simplement Jésus se manifester à travers vous autres, qu'il soit dans vos paroles, qu'il soit dans votre rire, qu'il soit dans vos larmes, qu'il soit avec vos mains, qu'il soit avec vos oreilles pour écouter. Vous êtes son corps, nous sommes son corps et nous sommes membres chacun pour sa part. Qu'on puisse le laisser s'exprimer parce que ce que les gens ont besoin, c'est de goûter lui comment il est bon. Et lorsque son peuple se réjouit dans sa bonté et à pleine gorgée se satisfait de sa bonté, alors les gens autour d'eux sont frappés de sa doctrine, sont frappés du fait qu'il est vrai, qu'il est vivant. Et donc, c'est ma prière que Dieu puisse faire porter fruit à sa parole qu'on a considérée ici. Je vous l'ai dit, c'était pas un message typique de Noël, mais certainement c'était sur l'incarnation. C'est ça, le temps de l'année où est-ce que on célèbre en ce moment, on se rappelle que Jésus est venu. Et ça, ça change tout. Est-ce que tu as goûté pour ta part toute la bonté du fait qu'il soit venu? Est-ce qu'il est venu dans ta vie? Est-ce que tu le connais personnellement? Si ce n'est pas le cas, je t'invite aujourd'hui à te courber, t'humilier et le recevoir comme ton sauveur. Je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Béni, Seigneur. On a eu des chants extraordinaires. En toute simplicité, dans la joie du Seigneur, ça a été proclamé sous forme de chansons accompagnées des instruments. Ça l'a beaucoup béni mon cœur. Et merci pour ce passage des Écritures aussi qu'on vient de considérer. Et Seigneur, tout ça nous montre comment tu es bon. Et Seigneur, pour nous, ton peuple, qui avons goûté comment tu es bon, oh, comment notre désir, c'est que ceux autour de nous qui sont dans la misère et dans la peine, parce qu'ils rament par eux-mêmes, sont seuls, sans espérance et sans Dieu dans le monde, je prie que ils reconnaissent que tu es venu aussi pour eux. Que tu te présentes à eux, même souvent avec la souffrance, avec ce qui est désagréable, que c'est toi qui es derrière ça, pour les appeler à toi. Qu'ils répondent à l'appel de la croix. Qu'ils répondent dans la simplicité de la foi. Reconnaissant que tu es le seul sauveur, le seul qui est vraiment bon. Et Seigneur, qui t'accepte, qui accepte ton sacrifice, que tu as tout accompli. Et Seigneur, merci ce matin que tu nous as donné ce temps béni ensemble. On te loue, on te célèbre, Seigneur, dans cette journée. Et merci, Seigneur, que c'est pas fini. On a du temps ensemble pour la communion fraternelle, pour partager un bon repas. Seigneur, merci que tu es là au milieu de nous, comme un héros qui sauve, et que tu gardes le silence dans ton amour, et tu as pour nous des transports d'allégresse. Tu chantes de joie, Seigneur, sur ton peuple que tu t'es créé. Merci pour ça, Seigneur. On te loue au nom de Jésus. Amen.